Et pour clôturer ces semaines de l'art, je suis ravie d'être en compagnie de Marc Spiegler, qui est consultant en stratégie culturelle, ancien directeur d'Art Basel, rédacteur au Media Business of Fashion et cofondateur de The Art Market Minds Academy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci, c'est bien d'être ici de nouveau et cette fois-ci, pas en virtuel, mais vraiment face à face.
C'est vrai. Et donc, vous avez rédigé un article au sein de Business of Fashion intitulé « Pourquoi il faut cesser de vanter l'art comme un investissement ». Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire depuis quand est-ce qu'on parle de l'art comme un investissement ? Est-ce qu'il y a eu un shift dans cette appréciation de l'art ?
Il faut dire qu'il y avait toujours des gens qui ont acheté de l'art en pensant à le revendre. Mm-hmm. Mais autour de 2000, un peu la tournée du siècle, les gens ont commencé à parler de l'art comme investissement. On lisait la phrase « alternative asset class », donc une classe d'actifs alternatifs à d'autres classes comme l'immobilier, les choses en bourse, etc. Ouais. etc. Donc, à ce moment-là, il y avait également des gens qui ont commencé à faire des firmes qui... En premier, créer des fonds où les gens investissaient dans l'art avec l'idée, comme un hedge fund classique, que sur un horizon fixe, disons 3 ans, 4 ans, l'art serait acheté et revendu et donc les investisseurs en tiraient leur marge. Après, encore plus compliqué, il y avait la fractionnalisation de l'art.
C'est ça.
De la même manière qu'on fractionnalise les chalets en montagne ou les heures de vol dans un avion privé. Et donc, l'idée, c'est que tu peux acheter un millier d'un Basquiat, un millier d'un Warhol, etc. Mais toujours avec la même idée qu'à un certain moment, ça serait revendu avec un bénéfice pour tout le monde. Il y avait à un certain moment presque une quarantaine de art investment funds en Europe même. Donc, il faut dire que c'est quelque chose qui a vraiment pris de l'allure, et puis tout le monde en parlait. Et puis, ça reste encore une grosse partie, je dirais une trop grosse partie, du discours autour de l'art, du marché de l'art.
Parce que, juste très concrètement, parler de l'art comme un investissement, ça voudrait dire parler de l'art comme un retour sur investissement de ce qu'on a investi en fond. Et pourquoi, parce que c'est vrai que dans votre article, vous parlez de ravage sur le monde de l'art. Pourquoi est-ce que vous considérez que ça a fait du tort au marché de l'art ?
Il faut dire que même au moment où j'étais directeur de la foire de Bâle, j'ai toujours dit que l'art était en soi un mauvais investissement. Pourquoi ? Parce que détenir de l'art emmène beaucoup de coûts. Il y a le transport, il y a les assurances, il faut le mettre quelque part. Mm-hmm. Donc, disons, une fois qu'on collectionne beaucoup d'art, on ne peut pas juste les mettre sur les murs. Donc, il y a beaucoup de coûts. Ce qu'on a en anglais, on appelle carrying cost. Donc, le coût d'avoir mm-hmm. un certain actif. En même temps, du fait que c'est un marché qui n'est pas régulé, on investit donc dans un environnement où, franchement, ce n'est pas vraiment au plein milieu des informations. C'est très dur à dire ce qui va monter, ce qui ne va pas monter. Bien sûr, si on achète des centaines d'œuvres, il se pourrait qu'il y en ait certains qui vont monter. Mais en général, je pense, et j'ai vu dans beaucoup de pays, que ce phénomène où beaucoup de personnes prend en même temps l'idée qu'ils vont gagner beaucoup d'argent en investissant dans l'art. Après 2 ou 3 ans, ils réalisent que c'était plus compliqué qu'ils avaient prévu. Et tu vois à la fois un boom et après un crash dans le marché. J'ai vu au Brésil, j'ai vu en Corée, j'ai vu partout ce phénomène des gens qui entrent très vite dans le monde de l'art, qui achètent beaucoup, et puis qu'après 2 ou 3 ans, sont très déçus et arrêtent, et qui freinent le marché de façon assez brutale. Donc, il y avait ça. Et ça, on peut dire, bon, c'est mauvais pour eux, tant pis, ils ont spéculé, ils ont perdu de l'argent. C'est comme s'ils allaient autre part, dans la bourse, on peut également perdre de l'argent.
C'est ça.
Et ça, j'en parlais depuis longtemps. Le plus grand problème, le plus gros problème auquel j'ai juste pensé en écrivant cet article, est à voir, et en relation avec le monde de l'art. Et ce qu'on peut dire concrètement, c'est dans ces 25 ans où il y avait cette sorte de financiarisation du marché de l'art, Et en même temps, l'expansion vers l'Asie et maintenant vers le Moyen-Orient, et puis la revanche de Paris qui a repris sa place dans le marché de l'art a stagné, même devenu plus petit. À mon avis, c'est au moins d'une partie à cause du fait que les gens sont arrivés dans le monde de l'art avec beaucoup d'enthousiasme. Ils voulaient être mécènes, ils voulaient acheter de l'art, ils voulaient subventionner les artistes et les galeries. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était un discours qui était le même qu'ils trouvaient dans la bourse. L'investissement, les revenus, les bénéfices.
C'est vrai qu'une terminologie...
Une terminologie qui n'a rien à voir avec l'art.
Oui.
Et je pense que ce qu'on ne saura jamais, c'est combien de vrais potentiels mécènes, combien de gens qui seraient pas partis après qu'ils avaient perdu de l'argent en achetant de l'art, qui auraient vu ces dépenses comme quelque chose qui leur emmenait, non pas de l'argent, mais qui leur emmenait la stimulation intellectuelle, disons, le fait qu'ils avaient contribué à la patrimoine, qu'ils avaient contribué à mettre la culture en avance. Et j'ai peur qu'on a perdu toute une génération de mécènes et on ne saura jamais. Mais ce qu'on peut dire concrètement, c'est que pendant cette période où on a vraiment mécanisé l'investissement dans l'art, le marché de l'art n'a pas grandi, il a plutôt stagné.
C'est ça. Et c'est vrai que on parle de plus en plus de retour sur investissement social. Maintenant, on en parle de plus en plus. Et ce qui est intéressant dans votre article, c'est que vous ouvrez à cette nouvelle génération où le discours, en tout cas, vous proposez de s'adresser différemment à cette génération qui est beaucoup plus sur l'expérience, qui n'a moins en tête ce retour sur investissement financier de l'art. Quelle expérience, du coup, on pourrait leur proposer?
Alors, pour voir un peu plus grand le contexte, j'ai toujours dit qu'il faut non pas seulement citer le problème, mais aussi essayer de trouver une solution.
Bien sûr.
Alors, je pensais, quelle est la solution à ce problème que le marché de l'art a créé pour elle-même, pour lui-même? Il faut regarder une des grandes tendances, c'est ce qu'on appelle generational wealth shift. Donc, l'argent qui soit hérité, soit gagné dans le marché, soit gagné dans le tech, etc., qui passe d'une génération à une autre.
Ouais.
De mes parents à les gens de ton âge et de plus jeunes, si on peut dire comme ça. Ce qui est clair, c'est que cette prochaine génération est moins intéressée par les objets que par les expériences. On voit par exemple que dans le monde du luxe, les marques de luxe qui font par exemple les habits ont du plus de mal que les marques qui font plutôt le wellness qui fait la beauté. Donc les gens sont prêts à payer pour l'expérience et moins pour les objets. J'ai eu une conversation très intéressante en venant. J'ai pris ce matin le TGV de Zurich à Paris. J'ai rencontré dans le TGV deux femmes qui sont des collectionneuses assez sérieuses et puis on discutait un peu exactement ce problème. Et j'aurais dit, est-ce que vos filles, parce qu'elles sont toutes les deux des filles qui sont dans le marché d'art, est-ce que vos filles vont collectionner autant que vous? Et tous les deux m'ont dit non. Et je dis, est-ce que vos filles sont propriétaires d'une auto? Et tous les deux m'ont dit non. Et ce que ça démontre, c'est que la prochaine génération est moins intéressée par les objets. Ils voient les objets comme quelque chose qui leur complique la vie au lieu qu'une possession.
L'acte de propriété.
Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement le dépenser en s'entourant d'objets. Alors... Il vous reste une minute. Et voilà la solution que je propose. C'est qu'il faut repenser la façon dont l'art est vendu. Et ce n'est pas que les gens ne le font pas. Mais se focaliser sur sur ce que acheter de l'art peut emmener à la personne, au collectionneur. C'est-à-dire l'expérience d'être avec les artistes. L'expérience de détenir l'art et être toujours stimulé par l'art qui t'entoure. L'expérience de se sentir comme quelqu'un qui subventionne la culture et le patrimoine. L'expérience d'être en contact avec des gens qui sont peut-être plus intéressants ou au moins très différents de soi-même. Et je pense qu'il faut, dans une phrase, il faut vendre l'art comme de la magie et non pas comme un investissement. Parce que le problème, c'est comme investissement, c'est, ça n'a jamais eu vraiment, ça n'a jamais bien fonctionné comme un investissement, mais l'art reste magique. Et donc, quand on le vend comme un produit qui ne marche jamais exactement comme on aurait prévu ou comme on aurait espéré, forcément, à un certain moment, ça ne marche pas. Par contre, si on propose, si on fait la promotion de l'art comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un accès, un portail dans un autre monde, dans le monde de l'artiste, dans le monde de l'art, je pense que là, on peut vraiment valider la chose pour laquelle les gens ont payé.
Merci beaucoup, Marc Spiegler, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie culturelle, ancien directeur d'Art Basel, rédacteur donc Business of Fashion, cofondateur de The Art Market Mind Academy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.